Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le choc dans l'Essonne après la mort de deux adolescents.
Victimes de guerre entre bandes, ils avaient 14 ans. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, l'Allemagne qui donne 3 jours à la Moselle pour faire baisser la courbe des contaminations. Sinon, elle ferme la frontière. Et puis le roi des greens, Tiger Woods, victime d'un sévère accident de voiture à Los Angeles. Sa carrière est-elle menacée? On appellera Lionel Gendron.
La politique, William Galibert.
Entre les Français et la politique, l'histoire d'amour est très compliquée, mais elle n'est pas encore terminée.
Rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ils avaient chacun 14 ans. Deux jeunes, un garçon, une fille, ont été tués à coups de couteau en moins de 24 heures dans des bagarres entre bandes rivales dans l'Essonne. Deux drames, a priori sans lien entre eux. Hier, une trentaine d'adolescents se sont affrontés sur le parking d'une piscine à Boussy-Saint-Antoine. Bilan, un mort et un blessé grave. Et la veille, lundi, à 40 km de là, une jeune fille a perdu la vie en face d'un collège à Saint-Chéron, une petite commune de 5000 habitants. En apparence paisible, Vincent Serrano.
Oui, on est ici en lisière de forêt, dans un quartier pavillonnaire sans histoire. La famille de cette jeune fille était connue. La maman commerçante habite ici depuis toujours. Sa fille de 14 ans a connu une scolarité difficile, à la limite du décrochage, raconte Mélanie, qui l'a vu grandir sous le choc aujourd'hui d'apprendre son décès.
Moi, j'espère que la justice sera faite pour cette petite, parce qu'elle n'a rien demandé à la vie. La moindre des choses, c'est que nous, on veut qu'elle repose en paix, parce que c'est une fille... En or, il faut vraiment que la justice fasse quelque chose pour elle. Parce que c'est une fille, elle a jamais manqué de respect à personne. C'est une fille très bien. Ça pourrait être ma petite sœur, mais je la considérais comme ma petite sœur. Donc je peux vous assurer que j'espère que justice soit faite.
Les proches de la famille qui font encore front ce matin pour soutenir les parents de l'adolescente qui se disent trop peinés pour prendre la parole publiquement. Audrey a sa fille qui est scolarisée dans ce collège et elle se dit inquiète à l'approche de la rentrée.
C'est pas rassurant. Pourtant c'est un petit village. Hein. On a peur. Déjà. Et après, on essaye d'éduquer nos enfants et de leur apprendre aussi à vivre malheureusement avec. De leur dire de se méfier s'ils voient qu'un jour ça tourne mal ou quoi, de s'éloigner en leur disant la vérité sans leur mentir et sans leur faire peur de la réalité de la vie aujourd'hui.
Et l'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes du décès de la jeune fille de 14 ans. Hier, en garde à vue, l'un des 6 mineurs interpellés a reconnu avoir porté le coup de couteau fatal.
Vincent Serrano à Saint-Chéron dans l'Essonne. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place dans la soirée. Il a annoncé l'envoi de renforts, une centaine de gendarmes et de policiers supplémentaires. Et il a, comme il avait fait après le passage à tabac du jeune Youri à Paris, envoyer un message aux parents, écoutez.
Que la société n'est pas responsable de tout. Les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Je pense qu'on conviendra tous ensemble que ce n'est pas l'équipement naturel d'un enfant de 13 ans ou de 14 ans dans la rue. Les parents ont un devoir d'autorité pour ne pas laisser des petits faits déliter la cellule familiale. Et lorsque les parents sont en difficulté, de les accompagner en amont afin d'éviter ces drames.
Gérald Darmanin hier soir dans l'Essonne, il conteste totalement les faits qui lui sont reprochés, dit son avocat. Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre pour 2 viols, mais on l'a appris qu'hier. Il est accusé par une jeune actrice qui a réussi à relancer l'affaire qui avait été classée. Les faits se seraient déroulés en août 2018.
RTL, 7h03, après les Alpes-Maritimes, c'est la région de Dunkerque qui s'attend à un serrage de vis.
Le ministre de la Santé sera sur place aujourd'hui. L'agglomération affronte une flambée des cas de Covid dû au variant anglais. Situation inquiétante aussi en Moselle, limitrophe de l'Allemagne. Outre-Rhin, les autorités menacent de fermer la frontière. Alors côté français, on s'active pour faire baisser la courbe. En Moselle, pour RTL, Samuel Goldschmidt.
Pour se préserver au maximum de nouvelles mesures plus dures et éviter à tout prix une fermeture de frontière avec l'Allemagne, on s'active à tous les étages du dispositif de lutte contre l'épidémie avec des arguments à présenter, à commencer par les tests que met en avant le préfet Laurent Touvet.
En 8 jours, on a testé 66 000 personnes en Moselle. Plus de 6% de la population a été testée. Et parmi ces 66 000, on a trouvé 3 000 cas positifs. C'est à la fois beaucoup, mais ça fait quand même une assez faible proportion. Et ça montre tout l'effort des autorités françaises pour détecter le mieux possible la présence du virus et ensuite isoler les personnes positives, parfois sans le savoir.
Parallèlement, 4 nouveaux centres de vaccination vont être ouverts cette semaine pour porter le total à 17 et utiliser notamment les 30 000 doses supplémentaires livrées la semaine dernière. Et même si 55% des nouveaux cas positifs sont des variants sud-africains. L'hôpital tient le choc pour le moment. 87% des lits de réanimation sont occupés, mais il n'y a pas d'arrivée massive de nouveaux malades graves aux urgences.
Samuel Goldschmidt est en visite au centre hospitalier d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Jean Castex a noté une, je cite, montée des eaux qui est préoccupante. Le taux d'incidence augmente légèrement en Île-de-France. De plus en plus de politiques et d'administrations l'ont adopté. L'écriture inclusive se répand un peu partout. On n'écrit plus les étudiants TS, mais les étudiants T.E.S. C'est juste un exemple. Mais vous voyez que ça ne simplifie pas forcément les choses. D'où cette proposition de loi de députés LREM et LR qui vise à interdire tout simplement ce nouvel usage dans tous les documents administratifs. Le texte a été déposé à l'Assemblée.
Et c'est un autre sujet dont se serait bien passé une partie de la classe politique. Hein.
La polémique sur les cantines scolaires de Lyon, la mairie écologiste, vous le savez, ne sert plus que des repas sans viande. Plusieurs ministres sont montés au créneau pour dénoncer un scandale. On a senti le porte-parole du gouvernement un peu agacé dimanche sur RTL par l'ampleur que prenait cette affaire. Et pour le député porte-parole de LREM, Laurent Lescure, ce serait bien maintenant de passer à autre chose.
On aime les totems et les tabous quand on parle d'écologie en France. Et ça, c'est un beau totem, la nourriture de nos enfants. Donc on peut se diviser ad nauseam sur le fait de savoir si les menus végétariens, c'est l'avenir ou pas. Ne nous méprenons pas, c'est un acte avant tout politique d'un maire élu à Lyon qui compte faire de la bonne politique politicienne avec l'assiette de nos enfants. On est un peu tombé dans le piège, je le regrette. Maintenant, on peut passer à autre chose.
Le député La République En Marche, Roland Lescure, avec Marie Mollet.
Dans un instant, le fléau des logements mal isolés. 6 millions de foyers seraient concernés en France. Il existe pourtant des aides, mais ça ne se sait pas toujours. On vous en parle dans quelques instants.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Jérôme Florin. On ne la connaissait pas dans ce rôle-là. Emmanuel Béard se mobilise contre la précarité énergétique. Elle sera l'invitée d'RTL à 7h40.
L'actrice vient de lancer un appel aux dons pour venir en aide à ces 12 millions de Français qui affirment souffrir d'une mauvaise isolation de leur logement. Il existe pourtant des aides. Encore faut-il le savoir. Nicolas Burnand, vous vous êtes rendu pour RTL dans l'Oise, à Estrée-Saint-Denis, où vous avez rencontré un couple de retraités pour lequel, chaque hiver, est un enfer.
Oui, c'est une petite maison en briques qui prend l'eau depuis des années du plafond de la salle de bain.
Il y a la toiture qui est fichue, puisqu'il pleut à l'intérieur. Tout s'abîme, il n'y a plus rien qui tient.
Au mur fissuré de la chambre à coucher, attaqué par la moisissure.
C'est complètement noir. Que de l'humidité, vous passez votre main, c'est mouillé. Hein.
Le tout bricolé, rafistolé par Bruno, le propriétaire, avec les moyens du bord.
À l'époque, j'avais trouvé une fenêtre dans nos moyens, mais c'est une fenêtre de bureau. Donc ça ruisselle sans arrêt d'eau, sans arrêt, sans arrêt.
L'hiver, pour dormir, la température ne dépasse pas les 7 degrés.
Bah, on n'a qu'un tout petit radiateur électrique, puisque la chaudière ne fonctionne plus. On va dire les 400 € complémentaires, ils partent dedans. Hein.
Et avec 1 200 € de retraite par mois, impossible de financer des travaux. Françoise ne supporte plus cette situation.
Ça vous prend la tête tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. On va encore avoir froid aujourd'hui. Oh, c'est humide. Comme j'ai des soucis de santé, je me dis, ben, pour finir ici, ça ne sera pas possible. On a tout mis dedans pour que nos enfants plus tard aient quelque chose. Des fois, ben, moi j'en pleure parce que c'est trop dur.
Désemparé, le couple alors bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la rénovation énergétique. Serge, bénévole, les a aidés à trouver les financements.
Dès le départ, Françoise y a cru. Bruno, ça a été plus compliqué au départ. Il était assez sceptique. Un tiers des personnes n'utilisent pas ce à quoi elles ont le droit. Parce qu'elles ne peuvent pas le demander, parce qu'elles ne le savent pas. La difficulté administrative doit être pour beaucoup.
Il a fallu un an et demi pour constituer le dossier. Plus de 50 000 euros de travaux vont être engagés d'ici quelques semaines.
Même les papiers, les photocopies, tout ça, ça nous dépassait totalement. Quand les travaux ils vont commencer, c'est merveilleux. On va pouvoir revivre normalement. On a de la chance.
La maison de Françoise et Bruno devrait être rénovée d'ici le mois de mai, avec l'espoir de vivre plus dignement la fin de leur retraite.
Reportage RTL signé Nicolas Burnand.
Et donc, je vous le rappelle, Emmanuel Béard, ambassadrice du collectif Stop Exclusion Énergétique, sera l'invitée d'RTL à 7h40. Elle répondra aux questions de Benjamin Sportouche, une opération initiée et soutenue par le Secours catholique.
Aux États-Unis maintenant, ces images effrayantes, celles de la voiture de Tiger Woods, l'avant de son SUV complètement écrasé. Le golfeur a été victime d'un accident au sud de Los Angeles. Il est en vie, mais grièvement blessé aux deux jambes. Ce qui pose évidemment des questions sur la suite de sa carrière, Lionel Gendron.
Oui, l'accident a eu lieu au lever du jour. Depuis l'hélicoptère, les secouristes aperçoivent un homme bloqué dans une voiture très endommagée. C'est Tiger Woods. Pour la police de Los Angeles, il a de la chance d'être en vie.
La voiture s'est retrouvée de l'autre côté de la route. Elle a heurté le trottoir, puis un arbre et fait plusieurs tonneaux.
Selon de premiers éléments, Tiger Woods roulait très vite et aurait perdu le contrôle. Il était seul dans son SUV. La star du golf a déjà eu des frayeurs en voiture. En 2009, il percute un arbre après une dispute avec sa femme. En 2017, il est retrouvé endormi au volant sur le bas-côté, bourré de médicaments. On ne sait pas où le champion allait, mais des clubs de golf étaient dans sa voiture. Sérieusement blessé aux jambes, Tiger Woods a été opéré. Déjà handicapé par de sérieux problèmes au dos, la suite de sa carrière est compromise.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Tiger Woods, légende du golf avec 15 titres du Grand Chelem à son actif.
L'histoire du jour pour terminer.
Drame en Chine, cette fois un homme qui faisait des abdos sur un poteau électrique. Il était suspendu dans le vide en multipliant les redressements de bassin avant de chuter. Alors il est sain et sauf, mais l'accident a créé une énorme coupure de courant dans tout le sud-ouest du pays qui a pris plongé dans le noir des milliers de foyers. Donc la prochaine fois, il fera la planche dans son salon.
On va quand même donner les courses.
Cagnes-sur-Mer, absolument, les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 9, l'As, le 12, le 13, le 5 et le 3, dernière minute, l'As.